Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir un livre dans la Bible, ça s'appelle le livre des Juges. Et nous allons faire une première lecture, nous prolongerons un peu plus tard. Et j'aimerais que nous prenions en considération un sujet qui est primordial, qui a toujours été un sujet important dans l'histoire de l'Église, mais certainement plus que jamais aujourd'hui. Et nous allons le découvrir ensemble avec des réactions que les chrétiens, que les hommes peuvent avoir en nous inspirant finalement du peuple d'Israël, les Hébreux, lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de Canaan, lorsqu'ils se sont installés et ils ont rencontré beaucoup de choses. Ils connaissaient la parole de Dieu, Dieu leur avait donné des paroles très claires, des avertissements, pourrait-on dire. Et ensuite, eh bien, ils se sont trouvés confrontés avec tout un monde, le monde païen. Et c'est vrai que ils n'ont pas toujours su véritablement prendre position et se maintenir dans la victoire de la foi. Alors, on va voir cela ensemble dans le livre des Juges, première lecture, on en fera une autre un peu plus tard. Juges, chapitre 3, et verset 1er. Alors, c'est après le livre de Josué, naturellement. Juges, chapitre 3, verset 1er. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient aux commandements qu'il avait prescrits à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens, ils prirent leurs filles pour femmes et donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Voilà, ça nous situe un peu dans le contexte que nous allons développer maintenant. Et si nous pouvions donner intituler notre réflexion ce matin, nous pourrions peut-être parler de l'apprentissage au combat ou du combat spirituel. Comme l'apôtre Paul le dira à son ami Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat, parce que cela sous-entend qu'il peut y en avoir un mauvais, en pensant qu'il est bon, en pensant que nous sommes dans la note spirituelle, parce que nous nous affairons, parce que nous guerroyons, parce que nous nous battons, nous nous défendons, nous sommes là livrés à toutes sortes de dualités, toutes sortes de choses, en nous-mêmes, à l'extérieur de nous-mêmes, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Alors il y a, permettez-moi de le rappeler, un bon combat, et il y en a un qui est moins bon. Et quelquefois, ce moins bon, eh bien peut-être nous pourrions l'assimiler et le comprendre comme un combat spirituel, alors qu'il n'a rien à voir. Et nous allons le découvrir avec le combat dans lequel nous sommes engagés pour glorifier Dieu. Parce que c'est ça le but, hein. C'est pas de dire « j'ai remporté des victoires », c'est de pouvoir dire « Dieu a remporté des victoires ». Et ça change tout, hein. Ça change tout. Le combat de la foi face à nos ennemis. Je ne sais pas si vous avez des ennemis. On a des adversaires en tous les cas. Enfin, on a des adversaires et on a un ennemi redoutable. Celui que Jésus appellera le malin, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Alors il met devant nous, certainement autour de nous, des adversaires. Je le répète, les hommes ne doivent en aucun cas être nos ennemis. On est d'accord. Ce que le sermon sur la montagne nous dit, aimez vos ennemis. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous ne ferons jamais de concessions et que nous ne devons jamais reculer devant l'ennemi qui est le diable. C'est autre chose. Alors nous entrons dans ce récit quand nous lisons ceci. Voici les nations que l'Éternel laissa. Alors c'est quand même assez curieux parce que il semblerait que a priori, c'est Dieu qui a laissé ces nations dans ce territoire de Palestine. Si nous voulons comprendre bien les choses, ou mieux les comprendre, on va réaliser que c'est Josué et ses armées qui ont laissé ces gens. Dieu leur avait dit, eh bien, vous allez les passer par interdit. C'est-à-dire qu'il y avait une petite nuance quand même à donner pour la sensibilité de ce que nous pouvons être, nous, dans notre 21e siècle. Dieu a dit, vous allez les chasser. Vous allez les pousser en dehors. Mais tous ceux qui vont résister, vous allez les dévouer par interdit. Donc, ce n'était pas une mise à mort, c'était tout simplement une compréhension chez les ennemis qu'ils devaient tout simplement eh bien, partir. Mais s'ils voulaient se maintenir et s'opposer, devenir de véritables ennemis à Israël, alors à ce moment-là, ils étaient finalement exterminés. Une petite nuance hein, pour les âmes sensibles, hein, je veux quand même le dire. Alors, les nations que l'Éternel laissa. Et en fait, c'est tout simplement les Hébreux qui les ont laissés. Parce que s'ils avaient suivi le commandement de Dieu, ils auraient conquis le territoire, mais alors au-delà du Liban, jusqu'aux frontières de l'Euphrate, là-bas, et puis ils seraient descendus partout. Hein. Le grand empire voulu par Dieu, c'était pas simplement un petit bout de royaume, c'était vraiment quelque chose de très conséquent. Alors, il nous est simplement rappelé qu'il les a laissés pour éprouver précisément par ces gens qui n'étaient pas des gens qui avaient la connaissance de Dieu, eh bien, par elles, Israël. Ça, c'était le but, c'est pédagogique. Vous n'avez pas voulu obtempérer à mes commandements pour aller au bout de mes promesses et les réaliser, vous auriez été en paix dans l'unité. Mais voilà, maintenant, vous avez ces gens au milieu de vous. Comme ça arrivera, et comme c'est arrivé du temps des Gabaonites, vous connaissez l'histoire des Gabaonites ? Qui viennent tout misérables, larmoyants, pleurant, disant « Mais nous sommes des gens qui venons de très loin et nous avons appris que l'Éternel vous bénit, alors nous voulons faire alliance avec vous. » Tiens, de fait, je peux vous dire que là, ils se sont fait avoir. Hein. Bel et bien, les Hébreux, parce qu'ils les ont eus jusqu'au bout. Hein. C'est terrible, cela. Alors, c'était une épreuve pour Israël dans ces circonstances. Et Israël, donc, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Alors ça pose le problème, ça soulève la question de nos générations. Ouais. La génération des pionniers, la génération de ceux qui prennent le flambeau après les pionniers, la génération de ceux qui viennent après tout cela. Que vont-ils faire de la connaissance qu'ils ont de Dieu ? Que vont-ils faire de ce que j'appellerais l'expérience de leur père ? Que vont-ils faire de cette culture spirituelle ? Entendons-nous bien. De cette culture spirituelle, est-ce qu'ils vont faire mieux que leur père ou est-ce qu'ils vont faire pire ? Excusez-moi, mais... Et je crois que toutes les sociétés, toutes les civilisations, toutes les générations dans les églises, dans les mouvements, d'une manière ou d'une autre, c'est rare quand ça a été véritablement vers le haut. Ça va souvent vers le bas. Et on se dit que, quelque part, il y a certainement un défaut. Ces enfants qui sont élevés dans cette connaissance évangélique, dans la parole de Dieu, dans des foyers où il y a la paix, parce que normalement, un foyer chrétien, il doit y avoir la paix et l'unité. Hein. C'est quand même très élémentaire à rappeler. Et dans ce contexte familial qui, normalement, favorise cette foi en Dieu, cette élévation de l'âme, du cœur, de l'esprit vers Dieu, on s'aperçoit que c'est comme les montagnes hein, avec la pluie et toutes les précipitations, ça finit par s'éroder au bout d'un certain temps. Et quelquefois, c'est très triste hein, de voir que de tout cela, il ne reste rien après quelques décennies, quelques siècles. C'était le problème d'Israël. Et Dieu avait mis, en quelque sorte, eh bien là, un stimulant, un aiguillon. Pourquoi il nous est dit qu'il laissa finalement au milieu d'Israël ces nations et précisément pour tous ceux qui n'avaient pas connu la guerre. C'est pas la guerre pour la guerre. C'était pas quelque chose de territorial en disant « Dieu nous a donné ce pays, alors ce pays, il est à nous et on va le défendre bec et ongle. » Non. C'était tout simplement pour garder. Il y avait une identité. Il y avait quelque chose de très profond. Et il fallait quelque chose pour stimuler, pour dire « Vous avez un héritage. Vous avez un patrimoine moral et spirituel par-delà l'autre. Eh bien... alors, faites-le, gardez-le. Vous avez un trésor dans les mains, vous avez un trésor dans votre cœur. » Et Dieu avait suscité, finalement, cette situation permise. Pour que les générations qui n'avaient pas connu de Moïse, pour les générations qui n'avaient pas connu les successeurs de Moïse, qui étaient quand même des hommes de Dieu, qui avaient gardé quand même la flamme et le feu, pour que les autres qui viendraient après puissent dire, eh bien voilà, comme Josué le dira, parce que lui, il l'a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça, vous connaissez, hein, c'est un grand classique. Hein. Mais on s'aperçoit que c'est le contraire qui s'est produit. Et Dieu avait suscité ce genre de vaccin. Vous savez ce que c'est qu'un vaccin, hein? C'est l'inoculation, finalement, d'une maladie affaiblie, bactérie affaiblie, pour susciter dans notre corps... eh bien, une réactivité pour produire des anticorps, pour produire des autodéfenses. Et quand l'ennemi arrive, eh bien, le corps sait se défendre parce qu'il l'a mémorisé. Et il sait à ce moment-là comment faire les choses. Et Dieu avait suscité ces nations. Elles étaient là. Elles vivaient à leur manière, d'une manière païenne, épouvantable, occulte, la magie, ceci, cela, l'idolâtrie, les faux dieux. Ils étaient là. Hein. Et les Israélites devaient, évidemment, eh bien, prendre conscience qu'il fallait qu'ils tiennent leur place. C'est comme nous aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Hein. On est dans un monde magnifique et merveilleux. Ouais. On ne parle que tous les jours de pollution. Et je ne parle pas de la pollution que nous respirons, que nous mangeons. Je parle de la pollution morale et spirituelle. Et quelle est la position? Quelle est notre position? Notre position à nous qui sortons du monde et qui avons découvert finalement la grâce de Dieu? Ou est-ce que la position de nos enfants qui sont là dans un monde qui n'a pas connu autre chose? À travers le bombardement de tout ce qu'il y a autour de nous, au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau des choses qui sont tellement faciles à accéder. Ils n'ont pas connu autre chose. Alors ils se disent, pourquoi pas, hein, finalement, ça doit être cela. Alors ils savent bien que, et comme tout homme le sait, on n'a pas besoin d'être converti à Jésus-Christ, mais on a une conscience et on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a quand même un phénomène qui est un raz-de-marée, un tsunami, c'est le grand nombre, c'est le conformisme qui nous emporte, qui emporte nos jeunes. Et ils se disent, eh bien, puisque la majorité est là, donc c'est elle qui doit avoir raison. C'est grave, hein, c'est dangereux. Alors il y a des choses qui sont indifférentes, mais il y a des choses qui sont extrêmement graves. Dans tous les domaines, hein, je parle moral, je parle dans bien d'autres aspects des choses. Alors, Dieu avait suscité cette situation, cet état, pour tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Vous savez, quand on sort du monde et quand on vient à Jésus-Christ, on est quand même des anciens combattants de guerre. Non ? Ouais. Bon, on ne se médaille pas, mais quand même. Hein. Ouais, parce que y a eu des combats et des luttes. Hein. Quand on pense aux pionniers, quand on pense à tous ceux qui nous ont et qui ont été nos pères dans la foi, où nous avons reçu un véritable trésor. Mais ils n'ont pas oublié de nous dire qu'il y avait un trésor, mais nous étions des vases d'argile, pour bien nous montrer que, bien, il fallait quand même faire attention de tout cela. Alors, on continue. Dieu voulait seulement. Ce n'était pas une sanction, ce n'était pas un jugement, ce n'était pas une condamnation. L'adverbe « seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre ». Connaître une chose, l'apprendre. Et puis ensuite, eh bien, finalement le vivre. On peut connaître les choses sans véritablement les vivre. On peut les apprendre et les abandonner au bout d'un certain temps. Mais apprendre et connaître ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Je vous ai parlé de cet apprentissage du combat spirituel, de cette combativité. Je ne parle pas d'agressivité, de cette combativité au niveau de la nature même de notre engagement. Et notre engagement, ce n'est pas un engagement ou une adhésion religieuse, c'est une dimension spirituelle. Écoutez, je crois que il est quand même question à un moment donné, c'est David qui dit cela dans 2 Samuel chapitre 22 et au verset 32, je restitue tout simplement, ne le cherchez pas, hein, vous le retrouvez, donc retenez simplement 2 Samuel 22 et au verset 32 il est dit ceci, il parle comme ça David, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel ? Lui savait où toujours retrouver le repère. Hein. Et qui est un rocher si c'est notre Dieu ? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans des voies droites. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur les lieux élevés, ce que reprendra le grand prophète Habacuc. Et écoutez bien la suite, c'est ce verset que je voudrais vous citer. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Ouais. Il exerce mes mains au combat et mes bras ensuite. Je connais, ensuite j'ai appris. Eh bien, tout simplement, à ce que mes bras puissent tendre l'arc. Et il y a quelque chose quand même qui est significatif pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est le Tour de France. Hein. Et je pense que ceux qui se lancent dans la course, c'est certainement pas avant-hier qu'ils ont pris à pédaler. Hein. Parce que là, ils vont pas aller loin. Et toutes les disciplines en gymnastique ou en athlétisme ou n'importe quel sport, ou toutes les disciplines en général, eh bien, c'est qu'il y a eu justement un entraînement. Et je crois que nous avons, et Dieu nous a placés dans un contexte qui est le nôtre, notre temps contemporain, et je crois que nous devons regarder les choses comme un exercice et de dire, eh bien, Seigneur, apprends-moi et entraîne-moi, Seigneur, pour que je puisse garder la foi et que je puisse mener le bon combat. Écoutez, également, vous savez ce que nous dit l'apôtre Paul, et ça nous connaissons tous, parce qu'il faut le redire de temps en temps à l'Église. Quelquefois, ça nous paraît si facile, si simple, si habituel, si commode, routinier. Mais vous savez que la routine, elle tue. Écoutez bien ce que dit Paul sur la nature du combat que nous avons engagé. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs. Et par sa force toute-puissante, parce que lui, il est tout-puissant. Même s'il y a des puissances, même s'il y a des occasions d'être fort d'une autre manière. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous avez vu où est l'ennemi, vous avez vu où est l'adversaire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il est bien dit, tout surmonté. Seigneur, qu'est-ce que l'on se sent faible? Qu'est-ce que moi, personnellement, je me sens faible devant tout ça? Pourtant, on a déjà exercé nos mains au combat. On a déjà fait des belles expériences avec le Seigneur, mais on a tellement, tellement besoin d'apprendre. Pour moi-même, pour nos responsabilités, pour mes responsabilités, Seigneur, je sais que mon ennemi a des siècles et des siècles d'expérience sur moi, parce que moi, je suis de passage. Lui, il demeure, enfin, jusqu'à un certain temps, le prince de la puissance de l'air. Et des hommes, il en a trompé. Hein. Les serviteurs de Dieu, il en a roulé, hein, quelques-uns. Il les a envoyés dans la poussière. Hein. Et il y en a qui ont résisté. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne serait pas là. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme au mauvais jour. Seigneur, nous avons vraiment besoin de ta grâce. Alors, ces nations étaient au nombre de cinq, enfin, il y en avait plusieurs, excusez-moi. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne, je passe, etc. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache, et maintenant l'investigation va un peu plus loin, c'est le fond des cœurs des hommes, des Hébreux, sache s'ils obéiront au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Si vous considérez bien la configuration géographique, il y avait comme un arc de cercle de tous les ennemis autour. Arc de cercle, parce que bon, il y a la Méditerranée d'un côté, hein, là, et, hein. Mais il y avait comme une ceinture autour d'Israël et de tous ces peuples cananéens, depuis les temps immémoriaux, avaient pratiqué Hein, le paganisme est à haut niveau, puisqu'ils allaient jusqu'à sacrifier, égorger leurs enfants en sacrifice à leur dieu. Abominable. Et puis il y avait non seulement cette ceinture d'ennemis autour d'Israël, mais il y avait en Israël, même au cœur d'Israël, finalement, eh bien aussi des Cananéens. L'Israël d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Nous l'avons vu il y a 2 mois, dans notre voyage, il y a un grand mur, très haut, et que vous alliez finalement d'un côté ou d'un autre, vous le voyez de partout. Enfin, dans une certaine mesure, en tous les cas, autour de Jérusalem, c'est comme ça. Avec des barbelés, ce mur. Alors, on l'appelle le mur de la honte, on peut dire tout ce que l'on veut. Et il y a des couloirs pour aller d'une partie d'Israël à une autre, parce qu'après, ce sont les territoires palestiniens. Mais la menace est toujours la même. Rien n'a changé depuis 3000 ans. Depuis le temps de David, rien n'a changé. Depuis le temps où nous sommes en train de nous préoccuper de ces questions. Les ennemis étaient là. C'est terrible. Alors, on peut comprendre que même l'Israël d'aujourd'hui, les Israéliens disent que à Jérusalem, on prie, à Tel Aviv, on danse, et à Jaffa, au travail. Alors, c'est pour vous donner un petit peu la... hein, on ne prie pas qu'en Israël. Hein. Y a pas que, on ne fait pas que ça en Israël. Hein. Je peux vous dire qu'il y a tous les clivages qui sont représentés. Les ennemis sont toujours là. Mais je ne parle pas des hommes. Destruction du peuple. Et destruction du peuple de Dieu qui est l'Église encore aujourd'hui pour nous. Alors, c'était pour servir à mettre Israël à l'épreuve et pour savoir quelle attitude. Alors vous allez me dire, mais on ne réussit pas du premier coup à surmonter les épreuves et les tentations. Je vous l'accorde. Mais gardons la foi en Dieu et ne baissons jamais les bras lorsque nous chutons et lorsque nous tombons. Revenons vers Dieu, demandons-lui pardon, repentons-nous et croyons que c'est lui qui va nous relever. Ne vous laissez pas accuser par l'adversaire parce qu'il attend que vous soyez par terre en disant « tu vas rester par terre, tu vas manger la poussière et tu ne te relèveras jamais ». Ne n'acceptez jamais ce discours, il vient de l'ennemi. On est d'accord ? Trop d'enfants de Dieu sont en faiblesse, sont complètement démunis parce que finalement ils se sentaient forts en disant « je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas ça ». Et malheureusement ils tombent dans la fosse. Et une fois qu'ils sont dans la fosse, l'ennemi vient en se frottant les mains en disant « Regarde, toi tu es un bon chrétien, regarde, consacré, chantant des cantiques et faisant ceci et cela, regarde comme tu es misérable, eh bien Dieu ne te pardonnera jamais. » Eh bien vous savez qu'il y a un principe que quand on demande pardon, Dieu nous pardonne et il nous relève. Ne vous laissez pas emberlificoter et ficeler par l'ennemi, parce que c'est le but. Et quand on tombe, regardez au Seigneur et c'est lui qui va vous relever. Vous allez dire « Mais... « Ah, j'ai tellement de mal et je vais recommencer. » Bah, ne dites pas que vous allez recommencer. Dites au Seigneur qu'il vous aide à ne pas recommencer. Tout simplement, parce que nous faisons notre petit scénario tout seul. Hein. Parce qu'on veut tellement clean devant Dieu. On veut être tellement parfait. On voudrait être saint. On voudrait être excellent, parfait. Mais on ne le sera jamais. Nous marchons pas à pas, souvent en titubant, en tenant la main de Jésus. Et c'est lui qui va nous conduire jusqu'au bout. D'accord ? Vous vous sentez bien, là, comme ça, ça va ? Non, non, mais je vous dis ça parce que le Seigneur m'a... Hein ? Moi, je ne suis pas là pour décourager les gens. Hein. Parce que des gens et des frères, des sœurs qui tombent, il y en a. Mais on est là pour leur dire, eh bien, maintenant, vous allez vous relever, et puis le Seigneur va vous aider. Vous savez pourquoi je le dis ? Parce qu'il le fait, et il l'a fait tellement de fois pour moi. Et je sais comment ça se passe. Parce que si on y va avec, comme on dit, la grosse Bertha, et puis la condamnation, la culpabilité à mort et tout ça... Mais on va faire une église complètement rabougrie, desséchée, et des gens qui sont tristes, des gens qui n'ont pas la vie, qui ne pourront jamais être le sel de la terre et la lumière du monde. La lumière, elle est faite pour briller. Et le sel, quand on en prend un peu, hein, quand on boit une tasse, eh ben ça donne encore plus soif. Mais soif de Dieu, là. On est des communicateurs de vie et non pas de mort. Alors, pour savoir s'ils obéiraient aux commandements qu'ils avaient prescrits à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens. Eh oui, ils se trouvaient là, comme le peuple de Dieu habite aussi au milieu du monde. Mais il y a cette belle parole que je rappelle comme cela de mémoire. Jésus, lorsqu'il a prié pour nous, et c'est une prière qui vaut pour nous aujourd'hui, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Sous-entendu du mal qui est dans le monde. Seigneur, c'est une prière qui est pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, par réaction, ce que nous disons, moi Seigneur, ma vie c'est uniquement l'Église, quand les portes sont fermées, c'est ma chambre de prière, c'est ceci et cela, vous allez mourir de faim parce que si vous n'allez pas travailler, ça ne va pas venir tout seul. On est en contact direct avec le monde. Ne soyons pas des mystiques. Ne soyons pas des éthérés. Un chrétien est avant tout un homme réaliste qui vit dans les réalités de son temps, de son monde. Et c'est comme ça que Jésus dira à ses disciples, « Je vous envoie par toutes les nations. » Oui, mais Seigneur, c'est pas beau dans les nations. Eh bien, le Seigneur te dit, « Mais je vais t'accompagner, tu verras. » Voilà, tu vas être gardé. Mais sois mon missionnaire, sois mon évangéliste, sois mon témoin, sois l'ambassadeur d'un si grand royaume que je te confie. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu la force. Nos Israélites. Ils prirent leur fille pour femme et ils donnèrent à leur fils leur propre fille. Et là, c'est terrible. Hein. Vous avez vu la dernière petite phrase ? Et ils servirent leur Dieu. Vous voyez ? On voit les conséquences de l'érosion. La montagne, la flèche, le sommet n'est plus dirigé vers le ciel. Tout est arrondi, vous savez, comme... le ballon d'Alsace, hein, c'est tout rond. Hein, et ça se. Voilà. C'est ça la foi. C'est ça le devenir de la foi lorsque véritablement nous ne gardons pas notre Dieu, que nous ne gardons pas sa parole, que nous ne gardons pas finalement l'esprit de sa parole. Parce que il y a peut-être des gens qui lisent 10 fois par jour la parole de Dieu, je ne veux pas y disconvenir. Mais ce n'est pas de la lire parce que c'est un devoir de la lire. Ce n'est pas la lire à la lettre. C'est d'en lire peut-être un peu moins, je ne veux pas vous choquer, mais de le vivre selon l'esprit, dans l'esprit. On a connu ce temps où nous avons lu la Bible. Il a bien fallu que je la lise quand même de temps en temps. Parce que c'était quelque chose, c'était comme ça et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Quand on approche le livre de Dieu, « Seigneur, conduis-moi, dirige-moi. Je veux être rempli du Saint-Esprit, je parle en langue. » Conduis-moi. Et dans les choses indifférentes de la vie, dans la vie quotidienne, il y a des pensées qui remplissent mon cœur. Pour vous d'ailleurs, hein. Souvent c'est pour vous. Hein. Pour l'Église, pour l'enseignement. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas la lettre pour la lettre. Parce que la lettre tue. Mais quand c'est l'esprit qui illumine, c'est quelque chose de formidable. Les prédicateurs, enfin ceux qui le savent, ou même ceux qui font chanter quand ils choisissent des cantiques, c'est la même chose. Hein. Ou ceux qui sont inspirés par l'esprit prophétique. Il y a quelque chose de formidable, des choses que nous n'avons pas pensées, que nous n'avons pas prévues. À un moment donné, il y a une inspiration qui vient à l'intérieur de nous-mêmes, parce que le livre, il est devant mes yeux, mais il est aussi dans notre cœur. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose de formidable, et je sais très bien que ce n'est pas la lettre, mais que c'est l'esprit, l'inspiration de l'esprit. Et ça, c'est formidable. Vivez cela, frères et sœurs. On a trop, écoutez, enrayé la progression de l'Église avec des normes, avec des recettes, avec dans un carcan particulier. Mais on est libre. Et c'est la liberté de l'esprit. Là où est l'esprit, la liberté, nous dit Paul. C'est formidable parce que on peut vivre les choses tout à fait différemment. Et on ne les vit pas dans un esprit de servitude ou d'esclavage. On les vit parce qu'on aime les vivre. Et on aime les vivre parce qu'on aime le Seigneur, tout simplement. Je vais passer à un autre chapitre. Je vous avais dit qu'il y avait 2 lectures. Alors on s'est arrêté qu'ils servirent les dieux des nations. Maintenant, on va tourner quelques pages. On va aller dans Juges. Chapitre 6, et je vais lire ce passage. Alors, 2 pages plus loin, verset 1er, et on va lire. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. » C'est la suite de ce que nous avons terminé il y a un instant. Hein ? D'accord ? Mais il n'y avait pas que ça, de marier leur fils avec leur fille. Ce n'était pas une question naturelle. Un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, quelle que soit la nationalité, ça reste des hommes et des créatures de Dieu. Hein. Mais le problème, c'est qu'en se mariant avec et faisant des alliances avec contre-indiquée, on a bien vu le résultat, c'est qu'ils servirent d'autres dieux. Ce n'est pas sur le plan naturel et ce n'est pas sur le plan de la nationalité. C'était le problème d'une déviation et d'une tentation et d'une séduction spirituelle. Ils servirent leur Dieu. L'Éternel les livra entre les mains de Madian, une petite tribu, parce que ce n'était pas une grande nation, Madian. Mais alors, je peux vous dire que là, ils en ont vu de 36 couleurs, comme on dit, hein, 36 étoiles. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et dans les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brodie, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient, comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. » C'est le même report que nous avons vu dans le chapitre 3. La conclusion de ce paragraphe premier. Sachant ce que nous savons, il s'agit de l'affirmation de la victoire de notre foi en Jésus-Christ, nous appuyant sur les promesses de Dieu et sa parole dans le respect que nous devons avoir pour elle, non pas à la lettre, mais dans l'esprit. C'est ça la nature du combat. Ce n'est pas battant l'air ou courant à l'aventure, avec un prétendu légalisme ou je ne sais quoi, ou fondamentalisme, mais dans l'esprit, dans la pensée de Dieu, l'affirmation de la victoire de la foi, ou alors le recul. Où là, véritablement, la montagne s'érode pour devenir finalement une plaine où il n'y a plus rien du tout. Et après la plaine, c'est le marécage dans lequel on s'enfonce. Écoutez bien ces paroles. Ce que Israël avait fait, cela déplut, naturellement. Et Dieu, dans cette situation, il les a livrés entre les mains d'un ennemi à côté, qui s'appelait Madian. C'était une bande errante dans le désert, les Madianites, pratiquement nomades. Et ils ne vivaient que de razzia, vous savez, d'incursions dans les peuples, et puis ils vivaient qu'avec ça. Ils ne travaillaient pas, ils se servaient du travail des autres, c'est ce qui se passe. On aurait pu dire que c'était un phénomène du temps et que c'était tout à fait naturel, hein, tout cela. Mais derrière, il y avait quand même autre chose et heureusement que ça nous est dit. Mais ça durait 7 ans. 7 ans, c'est long. Hein. C'est un septennat. Vous savez qu'on l'a raccourci, le septennat. Hein. Je me garderai d'en dire plus. Mais toujours est-il que c'est très long de 7 ans de souffrance. La main de Madian fut puissante. Et elle a été puissante parce que, non pas parce que Madian était une petite tribu, mais elle était puissante parce que c'est Dieu qui avait donné la puissance. Ouais. Dieu qui avait donné la puissance à Madian. Et le verset qui nous intéresse, c'est le suivant. Pour échapper, lorsque nous sommes mal pris, lorsque nous sommes sur une voie de garage, une voie sans issue, une voie de traverse, qu'est-ce que, humainement parlant, nous faisons pour échapper? Bon, c'est instinctif d'échapper au mal, d'échapper à la souffrance, d'échapper aux conséquences peut-être de nos fautes dont nous sommes parfois les artisans. Et on sait très bien que ça va nous revenir. Qu'est-ce qu'évoque pour vous le mot « échapper » ou le mot « évasion » ? Liberté. Ouais. Quelqu'un qui s'évade, c'est parce qu'il espère bien avoir la liberté et puis pas être repris. Et là, ils ont voulu s'évader. Ils ont voulu échapper à Madian. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Ils se sont retirés. Comprends bien, hein, le mot. Au lieu de venir à Dieu, ils se sont retirés. Au lieu de se confier en Dieu, dans ce Dieu tout-puissant qu'ils connaissaient, dont ils avaient encore la mémoire, mais ils ne connaissaient plus que sous la forme et plus dans le fond. Et à ce moment-là, eh bien, ils se sont retirés. Et un chrétien, quelquefois nous le déplorons malheureusement dans toutes nos églises, quand il y a ce genre de Madianites qui passent par là, d'une façon ou d'une autre, qui effraient les enfants de Dieu, eh bien, les enfants de Dieu se retirent. je ne peux plus venir au culte, je ne peux plus venir aux réunions, je ne peux plus voir mes frères, je ne peux plus ceci et cela, parce que s'ils savaient, si ceci et cela. Alors ils se retirent, mais ils ne se retirent pas n'importe comment, en faisant n'importe quoi et n'importe où. Ils se retiraient dans les ravins des montagnes. Alors, l'existence d'un ravin, c'est parce qu'il y a une sommité. Autrement, il n'y aurait pas de ravin. Dans une plaine, il n'y a pas de ravin. Il n'y a que des crevasses ou des sillons dans les champs. La montagne, c'est en haut. Non. Le ravin, c'est tout simplement cet effondrement, en quelque sorte, de la montagne. Et nous voyons qu'il y avait quelque chose de tout à fait particulier. C'est que alors qu'ils auraient dû être en haut et tenir tête près de Dieu sur la montagne, dans la foi et dans la victoire, eh bien, au lieu de cela, puisqu'ils avaient perdu tout le sens de la vie spirituelle, eh bien, ils étaient étendus dans les ravins. Vous savez, c'est un goulet, un ravin. On appelle ça un canyon, on peut appeler ça de différentes façons. C'est quelque chose... On est souvent caché. D'ailleurs, les gens qui vont dans les ravins, c'est qu'ils se cachent. C'est broussailleux, c'est épineux, il y a toutes sortes de vilaines bêtes, probablement, qui se dissimulent. Et peut-être à l'époque, il y avait peut-être certainement des bêtes sauvages. Alors, les ravins et les montagnes, ils se sont mis là. Et vous savez, s'il y a quelque chose, à l'instar des Israélites, et pour nous, en tant que chrétiens, il y a quelque chose qui semble une contrepartie, qui semble peut-être une parade à notre foi, ou à notre piété, ou à notre vie spirituelle. La Bible nous en parle, elle nous parle des œuvres mortes, finalement, des enfants de Dieu, les œuvres mortes. C'est ce que c'est que les œuvres mortes ? On va en parler 2 minutes. Les œuvres charnelles. Vous savez qu'un jour, le successeur de Salomon, son fils, Roboam, venait d'hériter de l'Empire, mais un empire qui était coupé en deux maintenant, à cause du schisme, de la division. Et les ennemis sont arrivés donc à Jérusalem et ils ont pris tous les boucliers d'or qu'avait fait confectionner Salomon. Et lui, pour pas perdre la face, puisque ses ennemis avaient volé les boucliers d'or, il s'est dit, on va refaire des boucliers d'argent. Je crois qu'il y en avait 50 ou 50, pas d'argent, des reins. Alors, vous savez faire la différence entre les reins et l'or ? Si je vous donne une pièce d'or et une pièce d'airain, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas trop hésité. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que les œuvres mortes, on garde la face, ça brille un petit peu moins, mais néanmoins, on se dit, on a toujours nos boucliers d'airain. Ils les avaient mis dans le temple, qui avait été complètement pillé. Et ils se disaient, mais je suis quand même encore le roi d'Israël. Il n'avait plus qu'un petit royaume de rien de tout, puisque de toute façon, l'autre était parti ailleurs. Et ils se disaient, mais je suis quand même encore l'héritier de ce grand empire. Et puis Dieu est mon Dieu. Oui. Eh bien ça, ce sont les œuvres mortes. Ce sont des illusions. On se dit, voilà, on a perdu finalement le feu. On a perdu le feu du premier amour, la flamme. Et on se dit, ben, quelque part, on est encore chrétien. Oui, bien sûr, on est encore chrétien si on porte nom. Mais la réalité, ce n'est pas de porter le nom. C'est d'en avoir la réalité profonde, l'essence même dans son cœur. Et ce sont des œuvres stériles. Et là, quand on descend dans le ravin... Quand on descend dans le ravin des montagnes, qu'on descend la montagne pour se réfugier et qu'on se dit, bah oui, on est toujours chrétien, on est toujours croyant, bien sûr qu'on est persécuté, bien sûr ceci et cela, mais il n'y a plus de combat là à ce moment-là, on fuit, ça ne va plus du tout. Et puis la deuxième chose, quand on est dans le ravin ne nous suffit pas, on se renferme dans une caverne, écoutez bien. Dans les ravins des montagnes, dans les cavernes. Alors les cavernes, c'est l'image de l'enfermement, vous voyez ? Quand on est dans le ravin, on fait encore un peu le ciel bleu. Mais quand on est dans la caverne, parce que le ravin est percé de cavernes, où on les perce nous-mêmes, alors à ce moment-là, c'est véritablement une image forte de l'enfermement, le recroquevillement suscité par la peur et la crainte. Eh oui, il y a un homme qui était un homme valeureux, un homme de foi, remarquable, il s'appelle Élie, un homme de la même nature que nous dit l'apôtre Jacques. Et qui, à un moment donné, se trouve faire face à une femme. Il a peur d'une femme, c'est Jézabel. C'est pas n'importe laquelle. Elle est furieuse. Elle est sauvage. C'est la femme d'Akab. Et elle lui a dit, mon petit Élie, eh bien, tu ne passeras pas, tu verras pas la fin de la journée sans que je te coupe la tête. Élie, homme de Dieu, il s'en va, il part dans le désert, il court, il prend ses jambes à son cou et il déprime. Vous savez que la peur nous fait déprimer. La peur nous fait faire des bêtises. La crainte nous amène à paniquer. Et à paniquer, eh bien, à ce moment-là, on oublie que nous avons un Dieu qui peut nous délivrer. Et ils se sont renfermés dans les cavernes, tout simplement. Ils ont eu peur. Demandons à Dieu, et si vous êtes sensible, et si vous êtes quelque part fragile par rapport à vos pentes, parce que c'est une question de nature aussi, hein. Il y a des gens qui montrent, il y a des gens qui ne montrent pas, mais qui ont peur quand même. Faites-en un sujet de prière, mes frères et sœurs. Demandez à Dieu qu'il vous amène à être victorieux de vos craintes et de vos peurs. Il va le faire. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc vous avez les deux là. Hein? Seigneur, guéris-moi de mes peurs et de mes craintes et donne-moi plus de foi. Est-ce que vous croyez que Dieu va vous dire, reste dans tes peurs, il va vous aider? Et c'est une forme d'enfermement. On se met au noir, on se met là. Et on dit, je ne bouge plus. Tant que l'ennemi est là, mais il sera toujours là, l'ennemi, hein. Il attend que vous sortiez, que nous sortions de notre tout, de notre trou, de nos cavernes, pour encore, finalement, nous fusiller. Mais si nous sortons avec la foi, à ce moment-là, il nous est dit de dresser le bouclier de la foi contre lequel viendra s'éteindre tous les traits enflammés du malin. Seigneur, augmente notre foi. Donne-nous une plus grande foi. Si nous le demandons, mais c'est la prière que Dieu va exaucer en premier. C'est la première prière que Dieu veut donner à ceux qui l'invoquent. Donne-nous la foi. Et puis, les rochers fortifiés. Oui, sur les rochers fortifiés. Vous savez que un rocher, c'est solide. On est fier quand on est monté sur un rocher. Non, pas vous. Mais quand on va là, il y en a plein ici, hein, des rochers. Il y en a des petits, bon, c'est pas trop impressionnant, mais il y en a des grands aussi. On monte, ça nous donne l'impression que, oh là là, hein, et puis on sait que c'est solide. Hein. Vous pouvez taper dessus, hein, ça bouge pas. Hein. Ah oui, c'est battu depuis des siècles et des siècles par les flots, et etc. Ça ne bouge pas, les rochers. Et là, non seulement c'est des rochers, mais vous avez vu, ils sont fortifiés. Donc il y a un travail de l'homme, c'est-à-dire qu'on a choisi finalement une éminence, on a choisi ce rocher stratégique, et en plus, on a mis une fortification dessus. Ouvrage des hommes. Comme dans les châteaux cathares du sud de la France, dans le Midi, n'est-ce pas? Il y a des beaux châteaux, hein. Et on s'aperçoit quand on va là-bas, c'est terrible, hein. Ils sont pas très hauts, parce que ça fait 1000 mètres, 800 mètres, 1000 mètres, mais ça donne une impression, mais alors, d'une hauteur considérable. Ils sont presque en ruine maintenant, aujourd'hui, hein. Mais ils ont traversé les siècles, hein. Ça fait 1000 ans, hein. Et ça, c'est le travail de l'homme. Déjà, le rocher, et ensuite, la fortification. Et de monter, justement, sur ces rochers fortifiés, autant tout à l'heure, nous avons parlé de l'enfermement et du recroquevillement sur soi dans la caverne, là, il est question de l'isolement dans nos forteresses humaines. Vous savez, on est converti, du moins je l'espère, je le crois, on est converti. Mais qu'est-ce qu'on a emmené avec nous de notre ancienne culture, de nos vieilles habitudes, de nos mécanismes, de nos réactions, de nos actions, toutes sortes de choses? On n'est pas encore tout à fait... On sera libéré quand on arrivera de l'autre côté, mais on a encore tellement, excusez-moi l'expression, c'est un peu vulgaire, on a tellement encore de casseroles derrière nous. Ah ouais. Et on en souffre de cela. Et vous savez, c'est Paul qui nous en parle, de tout cet isolement dans nos forteresses humaines. Et il y a un beau texte qui nous est proposé dans Corinthiens chapitre 10. Écoutez bien, il est dit ceci. « Si nous marchons dans la chair, si nous voulons au-dessus de nos rochers humains, faire des fortifications en disant « je vais encore me blinder encore davantage » avec des substituts, avec des moyens qui sont des moyens de... des œuvres mortes en quelque sorte, et ne pas laisser Dieu faire les choses pour nous défendre. Alors si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, dit Paul, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Ça, il faut le savoir, elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, parce que c'est Dieu qui est derrière, pour renverser des forteresses. Vous voyez, les rochers fortifiés. Nous renversons les raisonnements et nos raisonnements. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. C'est Paul qui le dit. Vous regardez à l'apparence. Alors c'est là justement, il faut peut-être dire un mot. Vous regardez à l'apparence. L'apparence de quoi? l'apparence de ce qui est visible, l'apparence de ce qui nous effraie, de toutes ces choses qui, quelque part, eh bien, parce que nous les percevons avec nos sens, et nous disons « mais c'est terrible, j'y arriverai jamais », eh bien, c'est ces forteresses qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous donnent de faux messages, qui nous donnent de fausses indications, qui nous amènent, quelque part, à décoder faussement et à nous renfermer dans les cavernes et à monter sur nos rochers fortifiés, où là, eh bien, Dieu ne peut rien faire puisque c'est nous qui faisons tout. Vous savez ce que c'est que la grâce de Dieu ? C'est de s'abandonner complètement et totalement en tout entre les mains de Dieu, parce que nous avons été à cette école, que lorsque nous faisons les choses, Dieu ne fait rien, mais lorsque nous ne faisons rien, c'est Dieu qui fait tout. Tout est possible à celui qui croit. Exerce mes mains au combat, mais le combat, c'est véritablement celui de la prière. Si on prend la gestuelle, tout simplement, d'élever nos mains, on n'a pas besoin d'élever nos mains pour être exaucé. Bon. Alors, ces forteresses humaines, le légalisme. Je le répète encore une fois de plus, nous sommes des chrétiens et le mot chrétien, le nom que nous portons vient de Christ. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la disposition et la dispensation dans l'économie du Nouveau Testament qui n'est plus la loi, bien qu'elle demeure, mais dans l'esprit. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. Et ce n'est plus la loi qui nous régit, c'est la foi en Jésus-Christ. Et ça, ça change tout. Le légalisme, Seigneur, non, merci. Merci, Seigneur. C'est fini aujourd'hui. Parce que si nous maintenons cette économie de légalisme, nous proclamons à la face du monde et devant Dieu et devant les autorités qui sont dans le ciel que Christ est mort pour rien. Ben oui. Puisque la dernière parole de la croix, c'est « tout est accompli », alors pourquoi j'accomplirais les choses qu'ils ont déjà faites ? Donc, je fais preuve d'incrédulité. C'est l'orgueil religieux. C'est l'autodéfense agressive. C'est également un esprit de supériorité ou de domination. Voilà. C'est ça nos forteresses élevées. C'est ça ce que Paul dira quand il dit « mais nous sommes, ces armes sont puissantes pour renverser tout raisonnement ». Et l'entendement à l'intérieur de nous-mêmes. Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure. Oui, mets quelque chose de nouveau en moi. Crée en moi quelque chose de nouveau, un renouvellement. Et vous savez, quand on a tous passé par différentes étapes. Et on a vécu à un moment donné des renversements et des bouleversements de notre vie spirituelle et de notre vie chrétienne. Hier, je lisais un passage d'un livre, c'était un pasteur du 19e siècle, qui s'appelait Adolphe Monod, un des plus grands prédicateurs du monde protestant, certainement. Et il raconte sa vie de pasteur, et il parlait de la croix, de la prédication de la croix. Vous comprenez ce que ça veut dire ? La croix de la prédication de la croix, parce que prêcher la croix, eh bien, c'est véritablement une croix, c'était crucifié tous les jours. Et il raconte qu'il a passé des années, dans des combats, dans des luttes, dans toutes sortes de choses affreuses. Il est mort prématurément, il avait 54 ans, il est mort d'un cancer, mais il est connu énormément. Et il nous a laissé un message évangélique. Tout en étant protestant réformé, il a découvert à un moment donné toute la dimension de l'esprit évangélique. Et il raconte, il donne même la date, il a dit un matin... À un moment donné, ma vie a été complètement changée. Dieu a illuminé mon cœur, il m'a transformé et je suis rentré dans une nouvelle dimension. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'était pas converti, qu'il n'aimait pas le Seigneur. Il avait déjà consacré une grande partie de sa vie. Mais il avait besoin de faire une expérience. Et peut-être, mes frères et mes sœurs, vous bataillez encore dans des combats, vous guerroyez par vous-même, etc. Moi, je vous dis, peut-être qu'on a parlé comme ça ce matin. C'est pour vous dire, eh bien, Dieu t'attend pour rentrer dans une nouvelle dimension. Sors des cavernes. Ne t'avise pas de remonter sur tes rochers fortifiés. Sors du ravin, et moi je vais te donner de voir la lumière. Et tu vas être changé, c'est Dieu qui nous change, c'est pas nous. Nous pouvons avoir un idéal, et notre idéal, il est là devant nous. Mais c'est pas nous qui allons le réaliser, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous y conduire. Et cet idéal pourra porter vraiment le nom d'idéal lorsque nous arriverons de l'autre côté, que nous aurons fermé ses yeux à toutes les choses de la terre. Que Dieu nous aide ce matin, que Dieu nous bénisse. Moi, je vous donne ces paroles pour que vous puissiez être encouragés, pour que vous puissiez être fortifiés, pour que vous puissiez marcher de plus en plus près avec le Seigneur, dans la simplicité, dans la modestie. Alors, l'orgueil, on n'en a rien à faire. Parce que ce n'est pas nous. Qu'as-tu que tu n'aies reçu du Seigneur ? les dons. Merci Seigneur pour que tu nous aies donné les dons. Mais il y a une chose qui intéresse Dieu, c'est notre foi et les fruits de la foi. Parce que ça forme notre caractère chrétien. Et nous le retrouverons de l'autre côté, que les dons, on ne les verra plus. Hein, ça sera terminé, c'est pour cette terre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu remplisse nos cœurs de cette dimension de foi qui nous fait voir la face de Dieu et sa lumière qui est un soleil de justice. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que, à l'instar de ces hommes, de ces femmes qui nous ont précédés il y a si longtemps, le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple d'Israël, nous croyons que le peuple de Dieu d'aujourd'hui, l'Église, eh bien, nous nous bataillons avec les mêmes choses. Nous savons que notre ennemi, c'est un ennemi invisible qui a résolu, Seigneur, de nous détruire, de détruire la création de Dieu, de détruire la rédemption de Dieu dans les cœurs et dans les âmes qui ont reçu cette rédemption. Mais Seigneur, nous voulons vraiment, Père éternel, te demander que, comme David le disait hier d'une manière admirable, eh bien, en effet, eh bien, exerce mes mains au combat. Et dans ce bon combat, c'est une image, c'est tout simplement un symbole, mais nous savons, Seigneur, que celui, vraiment, de la prière de la foi, de l'abandon de notre existence, de notre vie, de notre corps, de notre âme, de notre cœur et de notre esprit, entre tes mains, alors à ce moment-là, comme nous l'avons évoqué, et nous pouvons dire comme Habacuc, et nous pouvons dire comme David le dit aussi, eh bien, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait monter sur mes lieux élevés. Alors nous voulons tout simplement nous confondre en adoration et en bénédiction, Seigneur, et te dire, mon Dieu, à travers le nom de Jésus, tu es merveilleux. Merci Jésus, remplis nos cœurs, donne-nous de connaître et d'apprendre, eh bien, cette leçon véritablement de la vie. Merci Jésus. Amen. Amen.